Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, l'ancien et le nouveau monde.
Oui, pour quiconque est déjà arrivé en retard au travail, généralement écrit à The Washington Post, des excuses suffisent, mais pas pour un lord britannique. Hier après-midi, à la chambre haute du Parlement, lorsque la baronne de l'opposition, Ruth Lister, pose une question en s'adressant à son collègue du gouvernement, Michael Bates, celui-ci n'est pas là. Après quelques minutes de retard, le ministre entre finalement à la chambre, se présente à la tribune, présente ses excuses pour son manque de courtoisie. Il dit combien il a honte de ne pas avoir été à sa place lorsqu'on l'interrogeait sur un sujet aussi important. La scène durera quelques secondes à peine et je vous laisse écouter Michael Bates lui-même pour savoir comment toute cette histoire s'est finalement terminée.
I'm thoroughly ashamed at not being in my place and therefore I shall be offering my resignation to the Prime Minister.
Vous avez bien entendu, pour ces quelques minutes de retard, Michael Bates a donc donné hier sa démission avec effet immédiat, de quoi laisser l'assistance abasourdie. Alors sa démission a finalement été refusée par la Première Ministre. Theresa May reste, commente The Guardian, que ce bref renoncement aura été l'un des plus dramatiques de ces dernières années.
Mais oui, et lui n'a pas démissionné, il a été révoqué. Lui, c'est l'ex-PDG de Radio France, Mathieu Gallet.
Oui, la Formule 1, Mathieu Gallet, ainsi que l'écrit le correspondant du Temps, rapport à son parcours professionnel éclair, apparaît aujourd'hui à 41 ans comme un bolide échoué sur le bas-côté des arrangements coupables avec l'argent public. Impossible dès lors de ne pas rendre des comptes aux citoyens payeurs, car sans exemplarité, l'audiovisuel public français financé par l'impôt ne méritait plus son nom. En ce sens, la révocation du président de Radio France par le CSA est logique. Reste toutefois deux questions. Tout d'abord, la foudre jupitérienne est-elle à deux vitesses? Richard Ferrand, l'actuel patron de la majorité parlementaire à l'Assemblée, accusé d'avoir abusé de sa position lorsqu'il dirigeait les mutuelles de Bretagne, a gardé la confiance du président malgré ses mésaventures judiciaires. Quant à Gérald Darmanin, l'actuel ministre du Budget, il reste pour l'heure à son poste malgré une accusation de viol portée contre lui, accusation vigoureusement contestée par ses avocats. Bien entendu, la différence est celle qui existe entre accusation et condamnation. Ce qui n'empêche pas de s'interroger où se situe aujourd'hui la ligne rouge à ne pas franchir. On se souvient par exemple de la démission dès les premiers jours du quinquennat d'Emmanuel Macron de celui qui dirigeait alors les armées françaises, le général Pierre de Villiers, lequel avait eu le grand tort d'objecter en public aux réductions prévues des crédits de la défense. Alors le cas du PDG de Radio France, Mathieu Gallet, n'a rien de comparable puisque l'intéressé, au contraire, avait cherché depuis sa nomination à appliquer avec zèle les réductions budgétaires exigées par l'État, sauf que la justice s'est intercalée, condamnée en première instance pour favoritisme. Lorsqu'il présidait l'INA, Mathieu Gallet était devenu un obstacle pour Emmanuel Macron, lequel prône aujourd'hui une remise à plat drastique de la radio et de la télévision publique, ou dit autrement, le maintenir en poste après sa condamnation en justice aurait décrédibilisé l'exécutif, et c'est ainsi que l'efficacité mais aussi la disruption que veut incarner le président quadragénaire imposait ce départ.
Et puis surtout Thomas, si la presse suisse s'intéresse de près aujourd'hui au cas de l'audiovisuel public français, c'est parce que ces convulsions ont un écho lointain à l'heure d'une initiative intitulée là-bas,
je
cite les Suisses, Nobilag.
Voilà.
C'est quoi Nobilag?
Dans à peine plus d'un mois, le 4 mars prochain exactement, les Suisses devront se prononcer sur la suppression des redevances radio et télévision, c'est-à-dire la suppression du financement public de l'audiovisuel. Et depuis plusieurs semaines déjà, ce débat nourrit nombre d'articles et autres tribunes dans les colonnes du journal de Lausanne où les deux camps rivalisent d'arguments. Alors à première vue, tout concourt à faire des auteurs de Nobilag des modernistes. Ils sont jeunes, férus de nouvelles technologies, persuadés que les radios et les télévisions généralistes n'intéressent plus grand monde, convaincus que l'État n'a pas à se mêler des médias, leur Graal. La réussite individuelle au sein des sociétés dérégulées, ils sont exaltés à l'idée que le citoyen de demain ne paye que ce qu'il consomme. A contrario, les défenseurs de la SSR, la radio-télévision suisse, apparaissent comme les tenants du vieux monde, accrochés au basque de l'État, incapables de saisir les révolutions en cours et soucieux de maintenir sous perfusion le plus longtemps possible un dinosaure agonisant. Or, une réflexion plus approfondie met en doute cette représentation, écrite un conseiller national interrogé dans les colonnes du Temps. Sur deux plans fondamentaux, dit-il, les auteurs de Nobilag apparaissent plutôt comme de jeunes vieillards. Tout d'abord, leur enthousiasme pour les marchés fait un peu ringard. La société n'existe pas. Cette profession de foi de Margaret Thatcher a déjà 30 ans. Or aujourd'hui, qui croient encore que l'on peut réduire un pays à une somme d'individus priés de se débrouiller dans la compétition économique. D'autre part, accrochés aux réseaux sociaux, les doigts sur leur smartphone, les citoyens sont déjà acteurs et consommateurs d'une infinité d'émotions brutes, directement accessibles sans intermédiaire ni mise en contexte. Nul besoin donc d'accélérer cette tendance. Il faut au contraire renforcer les contrepoids existants et en établir de nouveaux pour garantir la qualité de l'information. Le défi à venir pour nos démocraties n'est donc pas de démanteler les structures classiques de formation de l'opinion, mais au contraire de maintenir la qualité de l'information et du lien social dans un bouillonnement numérique déstructuré. Enfin, pour terminer, s'agissant toujours d'innovation, de déstructuration, on ne sait plus trop, le magazine Slate nous raconte ce matin l'histoire d'un professeur à l'université de Berkeley en Californie dont le cours a pour but d'introduire le design comme moyen créatif d'imaginer un avenir globalement juste. Or, récemment, il a commencé son cours par un laptop smash, une destruction d'ordinateur. Je veux que pendant ce cours, vous puissiez vous libérer de tout ça, a-t-il dit avant de balancer l'ordinateur sur le sol. À partir de maintenant, vous allez faire du design différemment, vous allez regarder le monde différemment, vous allez avoir une perspective différente. La vidéo de sa performance disponible sur YouTube montre les visages choqués, surpris et amusés des étudiants qui applaudissent à la fin. Et l'article de préciser à la toute fin que les projets de fin de cours sont intitulés « Provocation ».
Bon, on va commencer avec Yes Bilag hein, pour l'instant. Merci Thomas Cluzel.